Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus dans le Libre Journal des Cultures et de l'Exploration, où c'est chaque fois un réel plaisir de vous retrouver pour une émission, cette fois-ci en direct, et qui normalement sera filmée, donc accessible sur YouTube prochainement. Alors je vous propose aujourd'hui d'explorer l'univers lumineux de la tradition iconographique russe, car si l'on connaît les icônes dorées qui ornent les églises orthodoxes, que sait-on vraiment à leur sujet? Ne sont-elles que de simples images sur des panneaux de bois, des peintures religieuses, des œuvres d'art au service de la liturgie orthodoxe? Il s'avère que l'icône est bien sûr infiniment plus qu'une image. Elle constitue un des éléments les plus emblématiques de la tradition orthodoxe. Pour aller donc à sa rencontre, il nous fallait un ouvrage didactique, abordable et clair, le plus fidèle et le plus complet possible. Or, cet ouvrage a été publié récemment par les éditions Salvator dans la collection Voix de l'orthodoxie et s'intitule tout simplement « Connaître les icônes ». Nous le devons à Elisabeth Herrière-Dubreuil, notre invitée de ce jour. Bonjour madame, bonjour Elisabeth.
Bonjour Pascal.
Merci beaucoup d'être venue, d'avoir accepté d'abord mon invitation et d'être venue chez nous depuis Aix-en-Provence pour nous parler de ce trésor vivant qu'est l'iconographie. Alors pour vous présenter, pour nos auditeurs, vous êtes iconographe, vous avez également fondé l'atelier de la Sainte Face à Aix-en-Provence où vous enseignez. Vous vous êtes engagé sur le chemin de l'orthodoxie en 1980 et vous y avez entraîné d'ailleurs votre époux. Depuis, vous avancez, soutenu par l'iconographie dans laquelle vous vous êtes lancé après avoir suivi une solide formation avec le grand Léonide Ouspensky, donc l'apôtre russe de l'iconographie en Europe occidentale. Vous avez aussi produit et animé une émission de radio locale à Marseille pendant plusieurs années, et une émission qui s'appelait « L'icône nous parle ». Par ailleurs, et je souhaitais le préciser tout de même, ça me semble important, vous avez également un solide bagage universitaire, puisque vous êtes diplômé d'une école américaine prestigieuse, mais aussi d'une maîtrise de théologie à l'Institut Saint-Serge. Alors vous nous proposez de connaître et d'aimer, parce que pour aimer il faut connaître, les icônes dans votre ouvrage donc, qui est richement illustré. Vous mettez en regard l'icône avec l'écriture sainte. Vous abordez ses aspects symboliques, liturgiques, techniques, pratiques et historiques. Je dois dire que j'ai trouvé vraiment que c'était une lecture agréable, instructive. La première partie aussi de votre livre qui est composée de questions-réponses, qui en fait justement un ouvrage tout à fait agréable à lire. Vous approfondissez par la suite les questions que vous envisagez en première partie, ce qui permet finalement au lecteur après d'aller choisir là où ça l'intéresse. Et j'ai trouvé cela très commode, encore une fois, en tant que lectrice. Voilà, et je compléterai donc ma présentation donc de votre livre en évoquant la bibliographie qui figure à la fin de votre ouvrage, qui est remarquable, qui est complète, qui en tout cas ou presque, et très utile encore une fois pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin. Alors, Elisabeth Herrière-Dubreuil, pourquoi avoir écrit ce livre? Quelle a été votre intention?
Certes, comme vous venez de le dire, Pascal, il y a beaucoup de livres déjà sur les icônes, mais ça a été le fruit d'une expérience de 40 ans de travail intensif, et également le fait que peut-être je suis un peu intellectuelle, comme vous l'avez dit, parce que j'ai aussi un doctorat de philosophie. Donc j'avais toujours vécu depuis l'origine la pratique de l'icône comme venant de Dieu directement et comme un parallèle avec l'écriture sainte. Et j'ai découvert que vraiment on suivait des étapes analogues pour la réalisation de l'icône et pour l'écriture sainte. J'ai découvert aussi que la plupart des iconographes, même les écoles les plus célèbres, ne communiquaient pas cette correspondance. Par contre, deux de mes professeurs, Hélène Brett-Lankoff, qui était d'origine grecque au départ, et qui était française aussi, et Léonide Ouspensky, que vous avez cité, ils pratiquaient cette réalisation de l'iconographie par étapes. Je peux ajouter aussi ma cinquième professeure, qui était Ludmila Garrigou, donc de l'atelier Saint-Jean-Damascène, qui elle aussi pratiquait cela. Et même, j'ai eu, grâce à son mari, Père-Nicolas Garrigou, un projet de mémoire de Ludmilla qu'elle n'a jamais publié, où elle fait état de ces 7 étapes, exactement les 7 étapes. Donc, à la demande d'une de mes élèves, et de 2 ou 3 autres d'ailleurs, mais particulièrement de une, Lucienne Martini, pour ne pas la nommer, qui était déjà malade d'un cancer avant de venir et qui a fait 3 icônes avec moi. Et elle a beaucoup insisté pour que j'écrive un livre suite à tout ce que je lui disais. Mais je n'y arrivais pas. Donc elle est venue me voir 3-4 fois et on a écrit des plans de livres, mais je n'y arrivais pas à écrire. Et curieusement, le livre est paru au moment de son décès. C'est à peu près à une semaine près, quoi.
Donc, c'est aussi un hommage à cette personne,
voilà,
en quelque sorte.
Elle est parmi les personnes que je remercie au début.
Très bien.
J'ai eu de l'aide de beaucoup d'autres personnes qui montrent qu'il y avait vraiment aussi l'Esprit Saint par derrière, si on ose prononcer ce nom.
Mais osons-le, surtout en période de carême. Alors, je voulais vous demander aussi, Elisabeth Herrière-Dubreuil, maintenant, de nous expliquer finalement, est-ce qu'on peut définir rapidement ce qu'est une icône ou pas? Est-ce qu'on peut en donner une définition précise?
Alors, le livre commence comme ça, vers une définition d'icône. Donc, je ne donne pas une seule définition d'icône. Je pose des questions. Est-ce une peinture religieuse? Donc, vous avez déjà deviné la réponse. On a dit que l'icône orthodoxe, pas seulement russe, hein, je remarque que vous aviez dit au début russe, mais elle est d'abord grecque, ensuite russe.
C'est important de le préciser, vous avez raison. Ouais.
Et également copte, également arménienne, également serbe, croate, etc. Donc, dans tous les pays orthodoxes, il y a cette confession de foi, voilà, qui n'est pas faite pour les juifs, n'est-ce pas? Ils n'ont pas besoin d'une représentation pour croire en Dieu. Et nous, ça peut être un support de prière, un support de témoignage de la présence des saints parmi nous et avant tout du Christ et de la Vierge Marie. Donc c'est une fenêtre vers l'éternité, c'est-à-dire c'est un lieu de la présence. Elle se situe sur ce lieu qu'on appelle le firmament. Donc l'origine de l'icône, elle est l'hypostase du saint. Si j'emploie des mots un peu trop techniques.
Vous pouvez les expliquer.
Voilà, c'est-à-dire cet aspect de nous-mêmes qui reste éternellement, qui touche au Christ, notre co-créateur, notre créateur en fait. Hein. Donc ce firmament qui est créé au deuxième jour de la Genèse par Dieu, qui est également le lieu de la présence des anges. C'est le lieu que nous allons prier pour transcrire l'icône de quelqu'un.
Très bien. Et en fait, on le voit donc, dans ce que vous dites, c'est vraiment le lieu de la présence divine ou sainte. Mais c'est avant tout aussi une écriture sacrée, c'est un langage, l'icône.
Alors, c'est vrai que l'icône suit des règles analogues à celles du langage. Il y a une grammaire de l'icône, en quelque sorte, et c'est ce que j'essaie d'expliquer.
Voilà, on va en parler un petit peu après de ça.
Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot icône, ça vient du grec, n'est-ce pas, aiko, qui signifie ressembler. Et nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. La ressemblance a été perdue avec la chute, avec l'exode, avec le fait que Adam et Ève étaient chassés du paradis. Et donc, dans l'icône, nous retrouvons cette ressemblance. Du moins, nous sommes à l'écoute de la ressemblance retrouvée en Christ.
Très bien. Et c'est pour ça qu'on peut peut-être dire aussi que ce qui est vraiment central dans l'icône, c'est quand même cette image du Christ. Et je voulais qu'on évoque les icônes qui représentent la Sainte Face. D'ailleurs, lors de cette émission, lorsque vous la verrez, chers auditeurs, sur YouTube, il y aura des représentations justement de la Sainte Face. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler?
J'apprécie beaucoup, Pascal, le fait que vous ayez complètement lu le livre, que vous l'ayez intériorisé.
C'est ce que nous nous efforçons toujours de faire ici.
Et que vous allez à l'essentiel dès le début. Donc l'essentiel, effectivement, oui, c'est l'essentiel. La transmission par notre Seigneur Jésus-Christ, par économie, c'est-à-dire pour le langage des Grecs, l'économie, c'est une concession que Dieu fait à l'homme, et à l'homme non-juif, hein, puisque on n'a pas le temps d'étudier pendant 14 heures par jour la Torah, et l'icône, c'est immédiat. La perception de l'icône, c'est immédiat. Donc, c'est le roi Abgar d'Arménie, la grande Arménie de l'époque, donc à Urfa, c'est-à-dire Édesse autrefois, qui envoie son émissaire auprès du Christ. Et selon la tradition, c'est le mercredi saint, que selon l'évangile de Jean, quand des non-juifs, c'est-à-dire des Grecs, on peut dire, viennent voir Jésus, et ils disent à Philippe, nous voulons voir Jésus. Et Philippe le dit à André, et André transmet à Jésus que le Seigneur a pris un linge qui était disponible, l'a trempé dans la fontaine voisine, l'a mis sur son visage, l'a donné à l'envoyé du roi Abgar, il s'appelait Oussama Abgar, et que celui-ci, ayant reçu ce linge quelque temps plus tard, puisqu'il fallait le temps du voyage, a été guéri de visage, mais que c'est seulement après la Pentecôte, quand l'apôtre Jude Thaddée et son compagnon Thaddée, qui est fêté au mois d'août le 2e et le 1er au mois de juin, Jude Thaddée étant le 11e des apôtres, est venu auprès de, c'est la tradition orthodoxe, je rapporte, hein, qui est très vivante chez les Arméniens, auprès de ce roi Abgar, et que là, le roi a confessé que le Christ était vraiment Dieu, qu'il est mort et ressuscité, que tout son peuple est devenu orthodoxe, et que l'ensemble du corps du roi, qui était peut-être malade de la lèpre, a guéri.
D'où déjà, dès le début, finalement, cet aspect de guérison associé à certaines icônes, en tout cas.
Voilà. Et cet aspect de présence de Dieu communicable et guérissante. Et peut-être que votre technicien pourra illustrer cela par cette icône qui a été restaurée au XIVe siècle et qui, selon la tradition grecque, serait l'original de cette empreinte. Elle est conservée à Gênes, chez les Barnabites. Et elle a été chez les Arméniens donc jusqu'au XVIIe siècle. Et elle a été donnée avant la prise de Constantinople, un siècle avant la prise de Constantinople par les Turcs, donc au XIVe siècle, au général Montaldo, qui était italien et qui avait soutenu militairement les Byzantins contre les Turcs.
Très bien. Et puis vous-même, vous avez écrit des icônes de la Sainte Face. Il y en a d'ailleurs dans votre livre.
Oui, la couverture qui a été choisie par l'éditeur et qui ne savait même pas que c'était moi qui l'avais faite. C'est effectivement une fresque qui était dans une chapelle qui n'existe plus actuellement.
On la voit sur la couverture, en fait.
Et grâce au choix de l'éditeur, la représentation connaît une diffusion. Donc, il s'agit du Seigneur Jésus, dont le visage est inscrit sur le Saint-Linge que vous voyez en deuxième plan.
Voilà.
L'avantage de cette représentation, c'est qu'elle est beaucoup plus claire que la précédente où on distingue assez peu, bien qu'il y ait eu des repeints, les traits de visage. C'est une reproduction de la Sainte Face. Il y en a eu énormément après la prise de Constantinople par les croisés, après 1204. On pense quand même que le Saint-Linge lui-même a été préservé de façon secrète à Constantinople jusqu'au XIVe siècle, où il aurait été repeint. Il y a des textes très très beaux de la réception du Saint-Linge par l'empereur Constantin VII Porphyrogénète et par Constantin Silbès, par exemple, des textes théologiques extrêmement puissants qui montrent que c'était vraiment la sainte relique. Voilà. Alors, c'est donc l'icône non faite de main d'homme, l'icône Aheiropoiet, ça vient du grec, hein, ce qui n'est pas faite de main.
C'est-à-dire ?
Puisque c'est l'empreinte du visage.
Ah oui.
Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Christ est présent dans le sein du Père avant toute éternité comme un sceau. Et ça permet de dissiper l'hérésie arienne qui dit que le Christ serait certes la première des créatures, peut-être même avant toute création, mais une créature. Donc là, au contraire, il est présent déjà dans le sein du Père avant toute création. Pour l'intellect, ce sont des choses difficiles à admettre, mais dans la prière, on peut participer à ce mystère.
Absolument. Ouais.
Et d'ailleurs, c'est Saint Cyril d'Alexandrie qui l'a très bien exprimé, cela. Alors, la deuxième icône, qui est également très importante pour les iconographes, elle est faite de main d'homme. C'est l'icône peinte par Luc. Alors, que ce soit l'apôtre Luc, comme le dit la tradition orthodoxe, ou un des 70 disciples du Christ, qui sont fêtés le 4 janvier, on n'en est pas sûr au point de vue scientifique et historique, mais c'est un des deux en tout cas. Et c'est sûr qu'il y a un des deux qui a écrit l'icône, les trois premiers prototypes d'icône de la Vierge. Deux avec l'enfant, un sans l'enfant ou avec l'enfant.
Alors ça, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure.
Voilà, je ne me laisse pas déborder.
Absolument, je reste là sur la Sainte Face. Donc l'importance du Christ, en fait, donc, qui est vraiment à une place centrale dans l'iconographie. Je voulais juste faire une petite incise, dire, parce que là on parle évidemment en tant que croyant, mais bien entendu que l'icône s'adresse aussi aux non-croyants. Et là, c'est peut-être bien sûr plus l'œuvre d'art, mais la beauté telle qu'elle est agit également. Donc c'est pour ça que cette émission aussi concerne finalement
un peu
tout le monde.
Alors le livre s'adresse à tout le monde, qu'on soit croyant ou non croyant. Et bien sûr, celui qui est pressé, il n'a qu'à lire que les questions qui l'intéressent. Voilà. Pas obligé
exactement
de tout lire.
Ce que je voulais voir aussi avec vous, dans cette définition de l'icône, finalement, c'est, comme vous le dites, c'est infiniment plus qu'une image, puisque aussi elle est strictement consacrée par la prière de l'iconographe. Donc si je vous ai bien lu avant, pendant et après l'écriture de l'icône, puis par la bénédiction du prêtre, et ensuite par la prière des croyants. C'est aussi ce qui la définit finalement.
Vous êtes parfaite, Pascal, vous avez tout dit.
Non, je n'ai pas tout dit. Chers auditeurs, l'émission ne s'arrête pas là. Non. Autre question que je voulais vous poser, qu'est-ce qu'on entend, pour ceux de nos auditeurs qui ne le sauraient pas, il y a du vocabulaire dans l'icône, dans l'iconographie, qu'est-ce qu'une iconostase ?
L'iconostase, c'est simplement une barrière qui sépare le sanctuaire de la nef. Et c'est vrai que dans la pratique, en particulier après ce qu'on appelle le schisme de 1054,
schisme de l'Église chrétienne d'Orient et d'Occident.
Ça existait de tout temps. Et alors, chez les premiers chrétiens, c'était en pierre. Et c'est, par exemple, on le trouve encore à Torcello, près de Venise. Donc c'est une pierre sculptée, voilà. C'est simplement un lieu pour que le clergé se protège. Et moi surtout, le sanctuaire symbolise déjà le royaume de Dieu et nous sommes encore sur terre. Le lieu de la nef, c'est le lieu où nous les fidèles, nous entrons pour nous pénétrer de la présence divine. Et la vision des icônes sur l'iconostase, sur ce mur qui sépare le sanctuaire de la nef, et où il y a trois portes, vous savez, les portes saintes, et les portes droite et de gauche, avec les archanges Michel et Gabriel, ça nous permet de ne pas être distrait par la vue du clergé qui va être dans le sanctuaire et qui va s'occuper à préparer les saints dons et à célébrer, et de rentrer dans la prière grâce donc à la vue, alors qui est assez ordonnée, puisque sur notre droite, il y a toujours le Christ, à notre gauche, la Vierge, à côté du Christ, Saint Jean-Baptiste, à côté de la Vierge, le ou la patronne de l'icône, de l'Église, pardon.
De l'Église, d'accord, très bien. Donc un ordre très, très clair, très net. Donc on voit vraiment l'importance aussi dans la liturgie orthodoxe de l'icône. Et je voulais justement voir avec vous, parce que ces icônes, en tout cas dans l'esprit commun, pour nous, enfin, c'est une image, une très belle image bien sûr, mais faite sur du bois. Et vous nous apprenez qu'il n'y a pas que des icônes ne sont pas que sur du bois finalement, que les anciennes.
Alors la fresque, c'est un moyen particulièrement efficace pour sanctifier un lieu. Et sanctifier, ça veut dire rendre saint, c'est-à-dire que ça n'est pas anodin. Ça peut être même dangereux si jamais on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Ou s'il y a des blasphèmes ou des injures. Donc la fresque, je le privilégie comme moyen de sanctifier un lieu. L'icône, c'est également portatif, donc ça.
Alors, vous en avez une ici. On va peut-être montrer.
Elle se déplace.
Voilà. Vous pouvez la garder un tout petit peu plus. Montrez-la, montez-la, voilà, parce que là, la caméra vous voit bien.
La caméra, elle est par là.
Plutôt par là. Plutôt. Non, dans l'autre sens, vers moi, vers moi.
Tenez, prenez. Voilà.
Je la prends.
Alors, il y a
donc
d'autres
supports. C'est une icône qui a été réalisée quand même.
Il y a d'autres supports qu'on appelle iconographiques, le 7e Concile œcuménique qui a reconnu la vénération des icônes comme une tradition qui existait depuis toujours, nous cite les mosaïques, les peintures sur peau, c'est-à-dire les enluminures, et il peut y en avoir d'autres. Ça peut être sur métal aussi.
Sur la cire aussi.
Une peinture avec n'importe quel matériau, ça peut être aussi de l'acrylique et tout. Mais par contre, on va quand même essayer de prendre des matériaux les plus naturels possibles qui vont manifester les trois états minéral, végétal et animal.
Très bien. Autre élément caractéristique de l'icône, pour essayer de la définir, on n'adore pas une icône, mais on la vénère. Et là, vous venez de parler du Concile œcuménique de 1787, ça va peut-être nous permettre de parler de cette période historique, donc la période dite iconoclaste, puisque on reprochait aux icônes finalement, et surtout aux croyants, d'idolâtrer et non pas de vénérer l'icône. Et qu'il y a eu tout un... Il y a eu plein de destructions aussi d'organiser par l'empereur.
Ça c'est délicat. Bien sûr, il y a eu une question de traduction très malheureuse du grec en latin, ce qui fait qu'au début, ça a pris 100 ans avec le 7e Concile œcuménique soit reconnu vraiment en Occident à cause de ce mot traduit par adorare au lieu de proskini, de se prosterner devant. Mais en fait, c'est niveau de conscience. Si on a conscience que derrière l'icône est présent la personne. Souvenez-vous, saint Thomas, quand il touche le côté du Christ ressuscité, il se prosterne devant lui et dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et c'est pour la même raison qu'on va se prosterner devant une icône, en fait. On va reconnaître une présence. Voilà.
Tout comme, en tout cas chez les catholiques, la présence réelle aussi est occasion de se prosterner. Voilà, dans l'adoration, mais bon. Il y a quand même quelqu'un d'important, c'est le Jean Damascène, théologien à l'époque, qui a entre guillemets, enfin qui a déjà fait une amorce de légitimation de l'iconographie. Et puis, comme vous le disiez, donc ce 7e concile, quand je vous ai lu, vous dites place donc l'iconographie vraiment au même niveau que l'Évangile, donc de la parole. Donc c'est une parole.
Saint Jean Damascène a beaucoup insisté sur le fait que Dieu se soit incarné dans son Fils unique, que c'est cela qui rend l'icône possible. Par contre, il nous donne 5 ou 6 niveaux d'icônes. La vraie icône, c'est le Christ, qui est l'icône parfaite du Père.
C'est ça.
Et puis après, il y a d'autres niveaux. Et l'icône artificielle, selon l'expression du patriarche Nicéphore, qui est un excellent théologien d'icônes du
9e, je crois,
10e siècle, mon préféré. L'icône artificielle vient en 5e ou 6e, donc c'est beaucoup plus loin. L'icône aussi peut être définie par le fait qu'elle répare. C'est encore un des attributs du Christ ou du Messie, ou de réparer, c'est-à-dire d'unir ce qui est divisé, d'unir les opposés et les contraires, d'unir le ciel et la terre, d'unir l'eau et l'huile au point de vue pratique, par l'émulsion du jaune d'œuf qui est notre liant, d'unir le chaud et le froid. Enfin, il y a une liste comme ça de 7 ou 8 contradictions qui sont unies dans l'icône. Et ça unit aussi l'iconographe et peut-être même la personne qui prie devant une icône, car nous-mêmes, nous sommes souvent le produit de différents... par exemple, d'un père et d'une mère qui sont différents.
Déjà, à la base.
De différentes vibrations, disons. Et l'icône redonne l'unité.
Et puis nous sommes aussi à la fois faits de chair, nous sommes un corps, un esprit, une âme, et souvent...
Également.
Voilà, et certaines parties prévalent sur d'autres, et l'icône permet vraiment, effectivement,
l'icône,
en tout cas, on tend vers une unification.
Alors, voilà, c'est dans ce sens, c'est pas une peinture religieuse, parce que la peinture va se situer au niveau de l'âme, et l'icône, elle est au niveau de l'œil de l'âme, ou de la pointe de l'âme. Merci.
Pour cette précision subtile. Cher Michel, oui, je pense qu'il est temps de nous identifier.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des cultures et de l'exploration, du mercredi 25 février 2026, dirigé par Pascal Maurer, assisté Michel. Le sujet de cette émission est l'iconographie, un trésor vivant. L'invitée de cette émission est Madame Elisabeth Herriard-Dubreuil, iconographe, pour son ouvrage « Connaître les icônes » et publié chez Salvatore dans la collection « Voix de l'orthodoxie ».
Merci beaucoup Michel et chers auditeurs, je vous rappelle que cette émission est en direct, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions relatives aux icônes, à l'iconographie, quelle qu'elle soit. Notre invitée Elisabeth Herriard-Dubreuil sera ravie de vous répondre. Maintenant, je voudrais qu'on aborde autre chose, qu'on rentre dans le vif du sujet, Elisabeth, en parlant vraiment de l'élaboration de l'écriture. Je peux parler d'élaboration d'une icône ? C'est correct. Alors, ce qui prédomine, ce sont tout de même des éléments. Il existe donc des éléments permanents et finalement immuables tout au long de donc, cette longue tradition d'icônes, d'iconographie.
Oui, merci Pascal, parce que vous connaissez beaucoup d'icônes, par exemple de la Vierge,
oui,
et les unes ne ressemblent pas forcément aux autres. Il y a beaucoup d'écoles d'iconographie, chacune a son style particulier. Ce qui m'a intéressé, c'était de trouver quel était le fondement commun, c'est-à-dire les étapes communes de réalisation de toute icône. Et là, encore une fois, je me suis tournée vers l'écriture sainte et puis surtout dans la prière, parce que ça correspond également à des étapes de notre vie spirituelle. La première étape, ça va être peut-être la conversion. Et dans cette conversion, souvent, nous faisons table rase de tout ce qui était précédent. Et nous arrivons à une surface plane, à un esprit vide, mais pour accueillir le Seigneur, comme dit Saint Jean-Baptiste, préparer le chemin du Seigneur, aplanir ses sentiers. L'icône, d'ailleurs, est assez proche du chemin de Saint Jean-Baptiste, je trouve. Cette première étape, c'est aussi celle de la prière, où on va demander peut-être un père spirituel confirmation, on va choisir le sujet de l'icône. Ça peut être à la demande d'une église ou d'un particulier, parce que l'icône, elle est faite pour être diffusée, bien sûr, mais pas n'importe où et n'importe comment. La deuxième étape peut prendre très longtemps, et pour moi, il y a deux étapes essentielles pour qu'il soit une bonne icône, c'est la deuxième et la troisième. Et puis, on peut rajouter la septième.
Alors, parlons déjà de la deuxième.
Et la quatrième. Mais bref, la deuxième, peut-être, c'est la plus importante, effectivement, puisque c'est au deuxième jour que le firmament est créé par Dieu et que l'icône trouve son origine dans ce lieu qui est le firmament, cette étendue qui sépare le monde visible du monde invisible. Donc, ça va être le tracé. Alors, dans la Bible hébraïque, le deuxième jour n'est pas béni. Pourquoi ? Parce que ça crée une séparation entre les anges, monde invisible, et puis tout ce qui est créé. Séparation, donc, une source de problèmes. Il y a un tiers des anges qui se sont révoltés, tous les problèmes peuvent venir de là. L'iconographie essaye de rassembler, contrairement à ce que fait la chute des anges qui divise. Donc, on va essayer de travailler... en faisant des exercices sur papier avec un pinceau, de l'encre rouge et du pigment naturel. C'est vraiment pas cher, hein, les matériaux pour faire des icônes. Et on va faire une ligne, pas des tas de petites lignes hachurées, une seule ligne dans la prière, c'est-à-dire en fin de souffle aussi, en allant vers Dieu qui est au fond de nous-mêmes et en allant jusqu'au bout du souffle,
oui,
vers toi, Seigneur.
Et plus vous allez dans le bout du souffle, plus la main est légère, j'imagine, et le trait est léger.
Oui, et moins on tremble. On ne tremble absolument pas, en fait. Mmh. Alors, c'est très bien pour les gens qui ont tendance à trembler. C'est qu'ils font beaucoup trop de choses, en fait. Il suffirait d'aller vers Dieu à l'intérieur de nous. Il ne tremblerait plus.
Écoutez, merci pour ce conseil.
Donc on peut travailler pendant un an, deux ans, rien que sur la ligne. Le dessin des icônes.
D'ailleurs,
s'engendrent par module circulaire. Oui,
je ne sais pas si on pourra bien voir, je vais le mettre là.
Je ne sais pas
là,
si vous voyez bien.
Le problème, c'est qu'on ne peut pas agrandir là.
Voilà, là, vous avez trois représentations d'esquisses de la silhouette d'une icône. Vous voyez qu'il n'y a pas les traits intérieurs, il y a juste le trait extérieur qui va séparer différentes surfaces.
Absolument.
Et c'est un seul trait, à chaque fois, un trait unique, quoi. Cependant, ça crée une séparation. Alors, on va rappeler l'existence du firmament par la pose de l'or. Ça peut être de l'or sous forme de métallique, l'or brillant, ou ça peut être du pigment, parce que parfois, on n'a pas les moyens d'avoir des feuilles d'or. Hein.
Oui.
Et de le poser, ça prend très longtemps, ça prend une journée pour poser l'or sur une icône, à peu près. Il faut 8 couches de bol d'Arménie, ou 7, enfin... Et puis après, il faut 2 couches d'or, et puis il faut brunir avant, brunir après... Et puis, si on ne prie pas, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas facile.
En fait, la recette, c'est ça. Hein, c'est vraiment la prière.
En fait, c'est une excellente école pour apprendre à prier, à se concentrer et à prier la personne qui va être représentée.
Alors là,
on en est toujours à la deuxième étape.
Oui, et justement, il y a cette lumière. Donc, l'or représente la lumière, si j'ai bien compris, cette lumière visible, finalement, ou invisible.
Donc, la lumière représente le firmament, mais enfin... oui, ça, vous rejoignez Platon en disant que l'or, c'est la vérité. Mais disons que c'est une pratique iconographique. Et on ne va certainement pas faire un fond d'icône en bleu ciel, parce que ce n'est pas la réalité que nous représentons. C'est le fait qu'il s'agit du firmament. Mais ça peut très bien être de l'argent plutôt que de l'or. Ça peut être quelque chose qui est comme un miroir. Mais qui est comme un cristal aussi.
Oui. Parce que je pense aux peintures, alors cette fois-ci occidentales, jusqu'au XIIIe siècle à peu près, hein, qui s'inspiraient forcément de l'art byzantin, donc de l'art des icônes, et on a encore ces fonds d'or. Mais est-ce qu'ils avaient cette même symbolique-là? C'est sans doute possible.
Oui, après, on peut décliner. Hein, le Gréco, il était iconographe au début, puis après, il est devenu peintre. Mais bon...
c'est une parenthèse.
Au 18e, mais, oui. Même 17e siècle, je crois, en Russie, on a souvent fait tout le fond des icônes en or, et on a peint par-dessus, ce qui est assez, au point de vue technique, c'est une prouesse, parce que les pigments n'attachent pas sur l'or, il faut utiliser du fiel pour que ça tienne.
Très bien, d'accord. Donc, on en arrive maintenant à notre troisième étape, où là, il s'agit de poser des fonds unis sur les surfaces, ainsi.
Alors, ce n'est pas encore l'incarnation, mais ça correspond donc, si vous voulez bien que je fasse des analogies avec la Genèse, au moment où Dieu dit que les eaux s'amassent en aïeux, que le sec paraisse. Donc, c'est le sec. On va représenter, en particulier avec des ocres, la terre tout à fait naturelle, toujours notre liant à base de jaune d'œuf, un peu de vinaigre comme conservateur.
J'ai vu une vidéo aussi de certains iconographes, alors peut-être est-ce que c'est peut-être pas du tout orthodoxe justement, qui utilisaient de la vodka à la place du vinaigre.
Ah oui, bah c'est les Russes, c'est qui utilisent la vodka. On pourrait utiliser de l'ouzo peut-être, mais j'aime bien le symbole du vinaigre de vin rouge parce que ça rappelle l'Eucharistie un peu, mais bon, l'essentiel c'est que ce soit un conservateur. Il ne faut pas mettre trop de vodka parce qu'elle était assez élevée en alcool, il faut mélanger avec de l'eau.
Donc là, je vous ai interrompu. Et
l'essentiel, surtout, c'est que cette surface soit unie. C'est-à-dire que, mettons, on va faire le visage, on ne va absolument pas savoir où sera le nez, où seront les traits du visage. Il faut revenir à l'origine de la création, donc un petit embryon, un tout petit bébé. Il n'y a encore rien qui se dessine et on est à ce stade-là.
C'est très joli, cette image. Ensuite, la quatrième.
Donc, au contraire, à la quatrième, c'est l'étape de l'incarnation où les lignes intérieures apparaissent, les proportions du visage font reconnaître la personne. On connaît, d'après des sceaux du IIe siècle, qui existent toujours en pierre, je crois, et il y en a peut-être aussi en métal, de l'Empire romain, où on connaît les traits des saints apôtres Pierre et Paul. Mais chacun des 12 disciples du Seigneur a des traits bien spécifiques. Bon, certains sont un petit peu moins précis que d'autres. Moi, je pense à mon apôtre favori, Jude Thaddée, parce qu'il y a... Il est un petit peu moins précis que d'autres. Il est très discret, en fait, c'est pour ça. On l'appelle celui qui aime Jésus, alors que Saint Jean, c'est celui que Jésus aime.
Ah.
Ils sont complémentaires. Donc, en fait, les traits de tous ces saints sont connus. Pour le Seigneur Jésus, on sait que son nez est légèrement plus grand que celui de la moyenne des gens, mais c'est vrai qu'il a tellement été représenté, tellement été prié, que les représentations sont variées. Mais ce qui compte le plus, voilà, c'est, vous voyez, ces étapes que je suis en train de vous dire, ce sont des étapes constitutives, ce que dans la prière de Denis de Fournas, on appelle les préceptes du Christ, les préceptes de Dieu pour l'humanité, et qui sont révélés progressivement et qui illuminent progressivement notre âme. C'est le précepte de l'âme aussi. Donc, cette troisième étape, c'est une étape bénie. Dans la Bible hébraïque, elle est bénie deux fois, parce que ça rattrape le fait que la deuxième étape ne soit pas bénie. Par contre, dans la Septante, les pères avaient compensé l'absence de bénédiction en la rajoutant. Peut-être parce qu'ils savaient que le Christ, en venant sur terre, allait consolider l'humanité. Et c'est précisément sur cette deuxième étape, sur ce deuxième jour, que le Christ vient consolider l'humanité. Je vous donne une preuve, c'est que sur l'icône de la Sainte Rencontre, donc la fête du 2 février, ou l'icône de la présentation de l'enfant Jésus au temple, dans les icônes grecques, et uniquement celle-là, la prophétesse Anne tient un rouleau sur lequel il est écrit en grec, je ne vous le dis pas en grec, mais je vous le dis en français, cet enfant, ou ce bébé, Vrephos, pardon, c'est du grec, cet enfant va consolider le ciel et la terre, ou va affermir le ciel et la terre, et c'est la même racine que ce mot firmament.
Très intéressant. Ouais,
donc, en fait, le Christ vient sur ce lieu du firmament et vient affermir notre racine hypostatique qui se trouve sur le firmament.
Cinquième étape, Elisabeth.
Donc là, c'est une étape, vous avez compris, qui est très bénie.
Et, oui.
Voilà. Cinquième étape, les reliefs foncés ou les reliefs en négatif. Celle-là est plus délicate. Ah oui, là, on a oublié de dire à la quatrième étape qu'il s'agit d'une perspective inversée.
Ah oui, voilà.
Et
oui.
Que les lignes, par exemple pour des bâtiments, ça se voit plus, ou pour une coupe, par exemple, les lignes vont venir vers le fidèle et non pas dans un lointain.
Alors ça, c'est important parce que c'est vraiment spécifique à l'iconographie, hein, cette perspective inversée.
Oui, l'icône, elle unit le fini à l'infini. Hein. C'est encore une de ses caractéristiques.
Ah, oui. On l'avait oublié tout à l'heure.
Ouais. Et cet infini va venir vers nous qui sommes finis.
Et voilà. Donc, elle s'adresse à nous vraiment.
Voilà.
D'où
alors,
la perspective.
Maintenant, on est armé pour aborder cette cinquième étape qui correspond donc dans la Genèse à la création des oiseaux, des serpents, de tous ces animaux comme les dinosaures qui sont dans notre inconscient. Et qui correspondent aux passions que l'homme doit, peut-être pas dominer, mais en tout cas éduquer, amener à ne pas déborder. Alors, on va reprendre les endroits les plus en relief, par exemple du corps, du visage, des mains, ou des vêtements, ou des bâtiments, ou de la terre. Mais on ne va pas couvrir toute la surface. On va en couvrir peut-être seulement les deux tiers, et d'une couleur qui sera différente selon les écoles, mais qui évoque un passage par la mort. Par exemple, dans l'école grecque, ce sera un verdâtre.
Ah oui.
Et l'école russe, ce sera ocre rouge, donc presque plus foncé que le fond.
D'accord.
Donc on va déjà des ténèbres à encore plus de ténèbres. Dans un cas et dans l'autre, on va à une certaine, un passage par la mort, à la mort, à notre égoïsme, à nos passions.
Vieil homme,
voilà.
Ensuite, sixième étape.
Alors, la sixième étape correspond à la création des mammifères et de l'homme, doublement béni. Une fois pour les mammifères, une fois pour l'homme, dans le premier chapitre de la Genèse. Et donc, parce que nous sommes à la fois un mammifère et à la fois un homme. Donc, ça correspond à la culture, à tout ce que l'homme fait d'assets pour accomplir ce qu'il a à faire sur Terre, à garder son corps en bonne santé d'une part et surtout son âme.
Voilà, un certain
donc,
esprit de
tout
finesse.
Tout ce qui est culturel, ouais, culturel, tout ce qui est l'éducation, tout ce que nous apprenons dans les écoles et surtout la théologie, tout ce que nous pouvons apporter à Dieu. Et en même temps, c'est assez dangereux parce que dans cette sixième étape, où Dieu donne son libre arbitre à l'humanité, nous pouvons l'utiliser en oubliant Dieu. Et bien souvent, c'est ce qui se passe dans les récits, par exemple, des miracles dans Saint Jean. Au moment de la résurrection de Lazare, il y a la moitié des personnes présentes qui ne suivent pas Jésus, qui préfèrent suivre leur propre inclinaison. Et ça marche, et ça fonctionne quand même. Jusqu'à la fin où il ne participe pas à la deuxième parousie, à la deuxième résurrection. Donc, c'était à la fois une très belle étape. Au point de vue pratique en icône, on va reprendre l'étape précédente avec des dégradés subtils.
Donc, des couleurs plus claires.
On rajoute un peu de blanc, on rajoute un peu de couleur, un peu de jaune plus vif, de rouge plus vif, en dehors de l'ocre jaune, ocre rouge. Donc, on va avoir un orangé. Et la surface va être encore plus petite que celle de la cinquième étape, donc à cette sixième étape. Et puis, on va évoquer la direction du regard par un croissant, mais on ne va pas encore poser le regard avant la fin de cette étape.
Et alors, la septième étape maintenant,
La sixième étape implique bien logiquement l'écriture du nom, puisqu'il s'agit de la culture, donc l'écriture aussi. Qui va encore plus. Vous savez, des icônes, certaines sont ratées, mais par contre, par le nom, on sait qui est présent. Et si quelqu'un prie, même devant une pas très bonne icône, mais où il y a le nom marqué, eh bien, ça fonctionne quand même.
Alors, par exemple, dans l'icône que vous nous avez amenée, que vous avez réalisée, on peut peut-être la
montrer. Oui, de Sainte Marina.
De Sainte Marina. Donc là, le nom se trouve ici, en haut, hein, de part et d'autre, en fait. Gauche et droite. Hein.
Voilà, c'est marqué en français,
vous
voyez.
C'est marqué en français.
Alors, il n'y a que les initiales du Christ et de la Vierge et de Saint Jean-Baptiste qui, dans toutes les églises orthodoxes, de quelle que soit la nationalité, sont toujours en grec. Mais par contre, le nom, on peut le mettre en français. On va essayer d'utiliser le type d'écriture onciale en privilégiant la verticale, c'est-à-dire en mettant très peu de largeur et une grande hauteur pour chaque lettre.
D'accord, très bien.
Et puis on peut coller deux lettres les unes contre les autres de façon à ce que l'ensemble du mot fasse une cartouche.
Également.
Une sorte de rectangle.
Septième et dernière étape. Donc.
Oui, alors à la sixième étape aussi, on trace l'auréole hein, en même temps que les mots. Puis c'est souvent en rouge. Pourquoi en rouge? Parce que c'est un peu ce qui est tracé avec des lettres de feu.
Hein. Ouais. Le rouge symbolique en plus.
Alors maintenant, on arrête tout. On prie un tout petit peu Pascal. Et on arrive à la septième étape qui est d'un autre ordre. Puisque vraiment, là, nous devons abandonner toute volonté. Et tâcher d'écouter là où Dieu va poser quelques lumières qui viennent de lui. Alors évidemment, nous, on est de pauvres artisans, on est de pauvres écrivains, des scribes maladroits. Mais on va quand même faire très attention à implorer l'Esprit Saint pour que ces lumières manifestent quelque chose de lui.
Donc, du coup, on regarde une icône terminée avec d'autres yeux, hein, après vous avoir entendu. Ce qui veut dire que, par exemple...
Et c'est là qu'on va mettre la dernière lumière dans le regard, qui vient également de l'au-delà.
Très Très bien. Ah oui, aussi. Donc, et c'est cette étape, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous... Donc, elles sont toutes pleines de sens et de symboles, comme vous venez de nous l'expliquer. Mais vous avez aussi votre théorie concernant les sept étapes des miracles du Christ dans Saint Jean. Et ça figure d'ailleurs en annexe de votre livre. C'est très intéressant, on ne va pas le reprendre parce que là, on n'a pas le temps. Mais je voulais savoir, c'était votre propre initiative, enfin, ça vient d'où?
J'aime beaucoup le fait que vous disiez, c'est votre théorie. Oui, c'est ma théorie, bien sûr, j'y tiens énormément. Mais je ne veux pas convaincre tous les iconographes de me suivre. Je leur propose, après, c'est à eux et à Dieu de voir. Pour moi, c'est important parce que... Ça met de l'ordre. J'ai besoin d'ordre pour faire une bonne icône.
Mais il faut beaucoup de rigueur d'ailleurs.
Pour faire et une bonne icône. Je veux dire, combien d'icônes on détruit parce qu'elles ne sont pas faites dans ce qui est donné d'en haut, en fait. Hein? Et combien je suis gênée parfois par certaines représentations. Je ne veux même pas les regarder. Je pense que ça peut même salir les gens qui les regardent. Enfin bon, après, dans le monde, il y a de tout. Mais là, on essaye d'aller vers une sorte de vérité qui vient d'en haut. Et pourtant, c'est tellement simple, en fait. Cette étape, c'est de plus simple. Pour les évangiles, les sept évangiles de Jean, et il y a aussi les deux autres qui suivent les mêmes règles, d'autres théophanies, en quelque sorte, ce n'est pas des miracles. La Samaritaine et la femme adultère. Ce n'est pas des miracles, mais
non,
quand même,
mais
leur
oui,
âme a été
très
sauvée.
Fort.
Première étape, le cadre. Quelles sont les personnes en présence? Deuxième étape, le problème. Il y a un problème. Par exemple, les noces de Cana, ils n'ont plus de vin. Lazare, il est malade, il va mourir. Troisième étape, l'annonce de la résolution, en général par le Christ lui-même. Pour l'aveugle-né, le Christ dit non, c'est ni lui ni ses parents qui ont péché. C'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Quatrième étape, l'étape centrale, c'est le miracle. Par exemple, le Seigneur oint les yeux de l'aveugle et lui dit d'aller se laver à Siloé. L'aveugle y va, il se lave, il voit. Cinquième étape, diffusion à l'entourage le plus proche. Sixième étape, et là c'est encore les passions, vous voyez. La sixième étape, diffusion beaucoup plus large à toute la société. Et la septième étape, c'est en fait une sorte de consécration.
Très bien, mais je vous remercie pour toutes ces explications. Je vous propose d'écouter maintenant un bobino très très important pour notre radio.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs, donc nous continuons notre exploration des icônes avec Elisabeth Herriard Dubreuil et son livre « Connaître les icônes ». Et encore, nous sommes encore dans la phase de l'écriture de l'icône. Là, on a vu, donc, on vient de voir les sept étapes au plan matériel, on va dire, et spirituel, puisqu'on a compris que tout cela, est, bien sûr, ne fait que un. Et on parlait donc d'éléments permanents et immuables, donc il y a sept étapes, mais également, l'iconographe doit respecter quatre règles qui sont quand même fondamentales. On ne va pas non plus trop les développer, mais elles sont en l'occurrence la stylisation, la modération, la différenciation et l'exagération. Donc, j'aimerais en quelques mots, Elisabeth, que vous nous expliquiez donc ce qu'elles sont exactement. La stylisation, c'est le tracé des lignes.
La stylisation, elle est particulièrement visible dans les icônes coptes, où vous avez l'impression que les yeux, ce sont des amandes. Bien sûr, l'amande, elle va être ouverte vers l'intérieur, hein, du côté du nez, parce que la source, l'origine, c'est Dieu qui est au-delà de tout. Donc, les deux lignes ne se toucheront pas. Le nez, mais même pour des icônes grecques, en fait, vous avez une stylisation. La paupière supérieure, c'est comme un pont de cristal. Ça va être léger, c'est-à-dire délié, ensuite plein et ensuite délié. Et l'œil et surmontée par le sourcil qui va suivre la même règle. Et on passe toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, vous voyez, ce sont des règles d'écriture et non pas de peinture et qui sont toujours dans le même sens. Le nez, on va partir du haut pour aller vers le bas, faire une petite boucle en bas, qui est un peu comme la mort et la résurrection. Voilà, c'est très symbolique, c'est ça la civilisation.
Alors en fait, l'iconographe exprime en peu de moyens finalement des choses essentielles.
Oui, c'est une grande puissance en fait. Et puis la bouche est petite, la forme de la bouche, la lèvre inférieure, c'est une ellipse. Voilà. Bon, ça, c'est pour les traits de visage. Pour les cheveux du Christ, par exemple, on va pratiquer la respiration abdominale, comme pour l'accouchement sans douleur. oui, c'est tout à fait en bas de la respiration. Et quand on change de direction, comme dans la vie d'ailleurs, on va soulever le pinceau. Et ensuite, quand on va tout droit, on va appuyer sur le pinceau. Et ça, avec le souffle. Voilà là, quelques
éléments concernant la
civilisation, c'est dans le tracé des lignes, comme je viens de le dire. Pour les vêtements, on va doubler certains plis. Ça veut dire que nous sommes déjà dans le temps messianique.
D'accord.
Les proportions, les proportions, ce n'est pas les proportions du monde. Vous savez, parfois, les saints sont très étirés en hauteur. Ils ont toute petite tête, un très grand corps. Bon, en Égypte, au contraire, ils vont avoir une très grosse tête parce que le Christ est venu enfant là-bas. Donc, c'est proportions de l'enfance.
D'accord. Voilà.
Bon, c'est une stylisation. Ce n'est pas comme une photo de la réalité. La perspective inversée, c'est une forme
de
stylisation.
On en a parlé, ça, voilà, exactement.
Le fait que... On va privilégier les représentations en buste plutôt qu'en pied, mais les deux existent aussi bien. Et on va privilégier le lieu du cœur, aussi bien dans la direction du regard que dans les plis des vêtements. Et puis parce que l'iconographe, il va toujours essayer de prier la prière de Jésus.
Et la prière du cœur.
Ça nous incite à cette stylisation de montrer le lieu du cœur. C'est la modération, c'est
un autre deuxième
principe. Ouais. La modération se marque dans le fait que on ne va pas choquer les gens, on ne va pas tâcher de faire comme une publicité mensongère. Mm-hmm. Les couleurs seront toutes cassées, pourquoi ? À cause du repentir, de la métanoïa. Et la composition est elle-même, elle est structurée, c'est-à-dire que chaque élément est en rapport avec un autre élément et que ça doit correspondre à une harmonie. C'est une périchorèse, on dit en grec. C'est-à-dire, c'est une sorte de danse circulaire, comme celle de la Sainte Trinité dont vous m'avez parlé tout à l'heure, de André Roublev, cette icône des trois anges.
On l'a pas encore évoqué, mais on va en parler.
qui sont reçus par Abraham et Sarah. Ça fait partie de cette modération, le fait que des éléments différents soient réunis les uns avec les autres dans une unité harmonique.
Alors, par contre,
elle est contrebalancée, elle est équilibrée par le principe d'exagération, cette modération.
Voilà.
L'exagération, ça va stimuler la curiosité du fidèle. Pourquoi est-ce que l'icône vient tellement vers moi ? Pourquoi est-ce que on représente Saint-Christophe avec une tête de chien ? Bon, ça, c'est vraiment un exemple exagéré.
Pourquoi des disproportions de portes, de fenêtres
Pourquoi est-ce que les fenêtres et les portes sont tellement petites qu'on ne peut absolument pas s'en servir ? Parce qu'on donne de l'importance à ce qui a de l'importance pour nous, les hommes. En fait, le centre, c'est vraiment l'humanité dans l'icône. Et c'est ce principe d'exagération. Puis alors, le dernier principe, c'est la différenciation, ce qui permet de comprendre qu'on a une infinité d'icônes, par exemple pour le Christ, de son visage, et c'est toujours lui. Et en même temps, on saura que c'est lui, parce qu'il y aura quelque chose de lui à chaque fois. Mais il va se communiquer différemment selon les lieux où il va être prié. Selon les écoles, selon les personnes, selon les besoins.
Aussi, très bien.
Différenciation.
Donc là, nous avons vu ces quatre règles. Donc, pour résumer, Donc des règles et des étapes absolument indispensables. Donc les 7 étapes, vous l'aurez bien compris, chers auditeurs, et les 4 règles ou principes en tout cas. Maintenant, je vous propose de faire une petite pause musicale avec une belle musique du mont Athos.
Du monastère Simonos Petra.
Voilà. Chers auditeurs, vous venez d'écouter un extrait musical choisi par notre invitée Elisabeth Herrière-Dubreuil, qui est...
Alors, il s'agit du psaume 8, et j'ai cru comprendre quelques paroles. D'abord, le nom du Seigneur, et puis le fait qu'il est dans le ciel, Urano, c'était le dernier mot que nous avons entendu. Mais ce que vous avez pu sentir, c'est la prière des moines qui, elle aussi, nous amène de l'infini au fini et du fini à l'infini.
Comme c'est fort et comme c'est beau, encore une fois, en cette période de carême. Je voudrais que nous évoquions maintenant les thèmes iconographiques, mais surtout un, parce que le temps passe et passe vite, parce que vous êtes une mine d'or de connaissances, justement vous-même, chère Elisabeth Herrière-Dubreuil. Je voudrais qu'on parle de l'anastasis.
Merci Pascal, formidable Pascal. l'anastasis, c'est
un, merci.
Non mais c'est vrai que c'est également un fondement très important d'iconographie. Pourquoi ? Parce que personne ne l'a jamais vu.
Oui.
Alors on a un témoin visuel du fait que les justes sont ressuscités le jour de Pâques, c'est Saint Matthieu, et qui se sont promenés dans la ville sainte. Et Saint Matthieu, il était certainement pas très loin au moment de la résurrection, mais qui a vu le Seigneur sortir du tombeau ? Personne. Après Marie-Madeleine, la Vierge, Marie elle-même, donc les saintes femmes ont vu un tombeau vide, Pierre et Jean ont vu un tombeau vide, ils n'ont pas vu le Seigneur. Le Seigneur a voulu se manifester à eux plusieurs fois par la suite, mais le moment même de la résurrection, personne ne l'a vu. Et d'ailleurs, il y a des représentations que je n'aime pas du tout, où on voit les soldats, mais pardon, c'est mon opinion, hein, elles sont très répandues.
Et
pour moi, c'est un peu dommage, parce que c'est un tellement beau mystère que nous devons vivre de l'intérieur, qu'on ne doit pas, le défigurer, on ne doit pas le chosifier. Le monument, entre guillemets, c'est-à-dire la trace... La plus ancienne de l'anastasis que nous avons, elle date de 702 et on peut la voir sur le forum romain dans l'église Santa Maria Antiqua. Le pape de l'époque était grec, c'était Jean VII. Il a été pape seulement 2 ans, il est mort au bout de 2 ans. Avait demandé à des artistes, peut-être syriens, peut-être grecs, de réaliser cette fresque très très belle et très simple. On voit simplement... l'âme du Christ. Attention, il est mort, hein. Son corps est au tombeau. Donc en fait, c'est le Christ vivant, mais revêtu de lumière, parce que son âme est toujours vivante, qui tire Adam et Ève, aussi leur âme, du tombeau. Mais on les voit sous une forme d'humain. Et puis au-dessus, vous avez, dans un tout petit tombeau, les rois. Curieusement, les rois sont couronnés, mais pas Adam et Ève. Couronnés de la Stéphanos, c'est-à-dire ils sont auréolés, pardon. C'est le même mot en grec. Voilà, le Seigneur, donc, avec grande force, tire Adam par le poignet. C'est le geste du restitutor.
Et ce qui veut dire ?
Alors, c'est un geste très ancien qu'on trouve déjà dans les initiations à Babylone il y a 4000 ans, où l'initié est tenu par celui qui va l'initier, son maître, afin de le présenter à la divinité. C'est dans des seaux à submerge. Et ça a été réutilisé dans l'Empire romain comme l'empereur tirant de l'ignorance la province vaincue. Bon, donc il y a une influence certaine de l'iconographie impériale, en fait, de l'époque. Mais en même temps, le souffle qu'il y a dans cette icône, le fait que les vêtements du Seigneur montent vers le haut et non pas vers le bas, enfin, il est plein du souffle de l'Esprit Saint, ça ne peut pas avoir été inventé par les écrivains de l'empereur, en fait, les peintres des impériaux. Donc l'Anastasis, après, elle est vénérée chaque dimanche dans toutes les églises grecques orthodoxes et russes orthodoxes aussi.
Alors, c'est vrai que ce qui est très frappant, Michel, c'est que dans la religion orthodoxe, en fait, contrairement aux autres religions chrétiennes, ou en tout cas catholiques, et puis a fortiori protestantes, c'est que vous représentez très souvent justement la résurrection, j'ai l'impression, que vous mettez vraiment l'accent sur la résurrection encore plus que sur la croix.
Bah, chaque dimanche, n'est-ce pas, tout le monde célèbre la résurrection du Seigneur, mais ça n'empêche pas que chaque vendredi, nous faisons mémoire de la passion du Seigneur et de la croix.
Bien sûr, mais comme, j'allais dire, non pas comme message, mais comme signification, vous mettez vraiment l'accent sur la résurrection.
Mais dans les icônes, on n'a pas de chemin de croix, parfois, dans le sanctuaire, on a la présence de la grande croix liturgique. Dans l'église, on peut avoir la représentation de la crucifixion, mais juste en face ou à côté, il y aura la résurrection.
Alors bien sûr, la croix est fondamentale dans la religion catholique, mais c'est vrai qu'on peut regretter de ne peut-être pas avoir suffisamment de représentation.
Moi, je pense que c'est simplement pas accompli, si vous voulez. On reste un peu sur sa fin quand... Voilà.
Alors, autre icône, la représentation de la Vierge Marie, on en parlait en tout début, mais alors, excusez-moi, effectivement, Michel m'a fait signe. Nous, chers auditeurs, il est temps de savoir sur quelle émission vous écoutez et sur quelle radio.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des cultures et de l'exploration, mercredi 25 février 2026, dirigé par Pascal Borer. Assisté Michel, le sujet de cette émission est... L'iconographie, un trésor vivant. Notre invitée est Madame Elisabeth Herriard-Dubreuil, iconographe, pour son ouvrage « Connaître les icônes » publié chez Salvator dans la collection « Voix de l'orthodoxie ».
Merci Michel. Donc nous, en ce moment, là, nous entretenons des thèmes iconographiques, en tout cas de certains qui sont vraiment... très révélateur et important. Mais je voudrais qu'on parle maintenant de la représentation de la Vierge Marie, parce que dans votre livre, vous dites, bon, il y a trois sortes de représentations de la Vierge. Celle qui montre le chemin, c'est-à-dire le Christ, la Vierge de tendresse ou du doux baiser, ce qui est un très très joli terme, et la Vierge orante, représentée de face, les mains ouvertes, élevées au niveau des épaules. Alors si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on s'attarde juste sur une Vierge de tendresse qui est très belle et qui figure aussi dans votre livre, qui est la Vierge de tendresse de Vladimir.
Oui, elle a à la fois une Vierge de tendresse et une Vierge d'Igitria qui montre le chemin. Et elle a été réalisée par un iconographe grec à Constantinople pour le prince de Vladimir, qui pour elle, alors c'était vers 1125 je crois, a construit la ville de Vladimir, une église, enfin voilà. Et cette icône est actuellement encore à Moscou. Je crois qu'elle a été déplacée, elle n'est plus à la galerie Tetriakov depuis 2 ans je crois, mais je n'ai pas suivi. Par contre, c'est une icône qui aurait été réalisée sur une planche où l'apôtre Luc, ou le disciple Luc, a peint une icône de la Vierge à l'enfant. Elle est vraiment dans la tradition la plus pure, remontant aux apôtres de l'iconographie. La grande finesse des traits de la Vierge est unique. Je crois que c'est cette icône que Sainte Bernadette de Lourdes avait pointé du doigt quand on lui demandait à qui elle ressemblait, cette dame qui vous est apparue.
Très joli et très fort. Très fort. L'autre et dernière icône, thème d'icône, c'est l'icône de Roublev. Non, nous en avons parlé. Nous n'en avons pas parlé. Si, nous avons parlé de l'icône de Roublev. Si, la résurrection.
L'icône de l'hospitalité d'Abraham.
Oui.
Sainte Trinité. Alors, ce qui est intéressant, c'est de connaître aussi la fresque de Théophane le Grec qui montre. En haut, alors, c'est Théophane le Grec qui était grec, donc, mais il a évangélisé la Russie par ses fresques et il a été un maître d'André Roublev. Et donc, cette fresque montre dans la partie supérieure les trois anges qui sont à table. Et c'est particulièrement harmonieux parce qu'ils forment une unité qui correspond vraiment à la Bible hébraïque puisque les trois parlent d'une seule voix. Et en même temps, après, il y en a un qui est prédominant et les deux qui s'en vont à Sodome. Et en dessous, vous avez Abraham et Sarah qui préparent les dons qu'ils vont apporter. Alors, Roublev, il a fait que reprendre la partie supérieure et il en a fait une seule icône. Et par derrière, il a mis des symboles. Donc, il a mis l'arbre, l'église derrière l'ange qui est à notre gauche, donc à la droite de l'ange central. Et le rocher. Hein? Au centre, c'est l'arbre.
Au centre, c'est l'arbre. Ouais.
Alors, c'est le Concile des 100 chapitres de 1600 qui a dit qu'il ne faut surtout pas faire correspondre chacun des trois anges avec les personnes à la Divine Trinité, parce que Dieu n'est pas un homme. C'est d'ailleurs dans le prophète Osée. Hein? L'Esprit Saint n'est pas un homme. Par contre, Dieu est Seigneur, l'Esprit Saint est Seigneur. Le Christ seul est un homme.
Très bien, bah merci pour ces précisions, Elisabeth Herrière-Dubreuil. Alors, je voudrais qu'on évoque maintenant l'histoire. Dans votre livre, il y a vraiment un paragraphe qui lui est consacré, l'histoire riche et complexe en fait de l'iconographie. Peut-être, comme ça, préciser les différentes écoles iconographiques. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais
oui,
il y a la tradition.
Par exemple, chez les Grecs, ça correspond aux règnes impériaux, hein, les Comnènes, les Paléologues, etc. Chez les Juifs, chez les Russes, aux différentes villes, l'école de Novgorod, de Moscou, de Tver. Certains parlent d'une école de Paris.
Ah oui?
Grâce à l'émigration russe du XXe siècle. Et là, on peut reparler à nouveau de Léonid Ouspensky, de son maître Grégoire Krug. Il y en a eu plusieurs comme ça qui ont vraiment essaimé et redonné le sens profond de l'icône en France, qui a été découvert presque simultanément en Grèce par Fotis Kontoglou. C'est-à-dire ils ont redécouvert les bases fondamentales et ils ont échangé par lettres, ils ne se sont jamais rencontrés.
Et ça, à quelle époque ?
XXe siècle, vers 1970 par
oui,
là.
Donc avant ces deuxièmes parties.
60, oui. Ah. Voilà. Ah, mais encore une fois, si on peut citer le patriarche Nicéphore.
Allez-y, je vous en prie.
Citez-le. Il avait déjà compris tout, hein, et ça fait 10 siècles. Il insiste sur le fait que c'est par la résurrection du Christ qu'on peut représenter des icônes, pas seulement par son incarnation. Et que cette résurrection nous donne à nous la force, que c'est la résurrection du Christ qui donne la couleur aux icônes. Donc, pas n'importe quelle couleur, pas les couleurs telles que nous les voyons, même ce bleu vif de Radio Courtoisie, on va le casser un petit peu.
Ouais.
et il nous dit que l'icône est vraiment un témoignage du salut en Christ, de l'économie du Christ pour nous, les hommes. Que la forme d'esclave est transformée dans sa lumière ineffable et indicible. Lumière qui convient à Dieu, le Verbe. Donc, le lien. Vous parliez de la croix tout à l'heure. Il y a un lien entre la croix et l'icône, quand même. Et ce lien, il est transcendé par le fait que le Verbe se fait chair. Quand le Christ était sur la croix, c'était le Verbe qui était aussi sur la croix. Le Verbe vivifiait l'homme sur la croix. L'homme souffrait, le corps du Christ souffrait. Mais le Verbe de Dieu, qui est immortel, sans commencement, lui a donné la force. La preuve, c'est qu'il a dit cette parole sur la croix, montrant qu'il est Dieu. Et pour affirmer, par exemple, quand il a parlé à Jean et à sa mère, « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère », voilà, il était toujours présent en tant que fils unique de Dieu. Et il n'a jamais été séparé, pas même un petit instant, pas même quand il a expiré, Dieu ne l'a... Bon, c'est vrai que le psaume 22 dit « Ela, ela, massa bartami ». Mais si vous allez jusqu'au bout du psaume, je proclamerai ton nom dans la grande assemblée. Donc Dieu n'est pas absent de ce psaume 22. C'est... Mais par contre, le Christ, par sa kénose, a montré ce que Dieu fait lui-même dans sa kénose pour que nous existions. Seulement la première fois, mais aussi deuxième fois, notre deuxième naissance.
Vous pouvez préciser pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, la kénose, qu'est-ce que c'est ?
Se faire le vide, vide de soi-même. Dieu se retire pour que l'humanité, pour que le monde existe aussi, les constellations, etc.
Et là, vous avez terminé de le citer ?
On peut dire comme ça qu'il y a cette image du fer, que par la résurrection, le fer est rougi par le feu de la résurrection, mais il reste quand même du fer. L'humanité du Christ, quand il apparaît ressuscité, on ne le reconnaît pas, mais c'est quand même un homme.
Oui.
Donc c'est grâce à cette foi que notre humanité est sauvée malgré toutes les épreuves qui nous attendent encore.
Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la pratique de l'iconographie aujourd'hui. Vous nous aviez dit, effectivement, au XXe siècle, donc, et notamment dans les années 60, tout cet apport russe, en fait, en Occident. J'aimerais quand même savoir si on peut parler d'un renouveau, en tout cas d'un nouveau souffle de l'iconographie actuellement, en fait, aujourd'hui.
Oui, bien sûr, et dans le monde entier... Alors, pas seulement chez les orthodoxes, vous avez dit aussi dans l'Église catholique, et on le souhaite beaucoup. Je pense que les orthodoxes sont un peu comme le levain dans la pâte et qu'il y a une transmission progressive. Il ne s'agit pas de dire que nous sommes arrivés, parce que je pense que c'est très important de savoir que c'est Dieu qui agit plus que nous. Nous sommes les réceptacles. Et c'est Saint Jean Climac qui... appréciaient davantage les moines qui disaient qu'ils avaient tout raté que ceux qui pensaient qu'ils savaient tout. Donc, effectivement, il y a des iconographes qui, sans savoir, sont très doués et font des bonnes icônes. Voilà. Mais par contre, c'est plus important, c'est la foi de celui qui va prier devant l'icône. Une icône n'est pas faite pour être conservée dans un placard. D'abord, les insectes le savent très bien, ils vont tout de suite le manger quand c'est dans un placard, alors que si elle est sur une petite, par exemple, le coin rouge, comme on dit en russe, coin de prière, simplement pour les Grecs, avec une veilleuse devant, y compris devant l'icône, à ce moment-là, elle remplit sa fonction, qui est de nous permettre de nous mettre en présence de Dieu et de nous vérifier. Donc, quels que soient les iconographes, j'en ai connu beaucoup en France, je pense qu'il y en a beaucoup, je ne connais pas tous. Bien sûr, j'ai privilégié l'orthodoxie parce que pour moi, le fait de devenir russe, d'abord devenir ni russe ni grec, mais de devenir orthodoxe, ça m'a aidé à faire des meilleures icônes.
Oui. Oui, parce que vous en faisiez avant.
Oui.
Ah, ça, c'est intéressant.
Enfin, j'avais essayé d'en faire.
Alors, une question, puisque vous...
Mais je ne sais pas si c'était des bonnes icônes.
Puisque vous animez aussi des ateliers donc, d'icônes, vos élèves sont-ils tous orthodoxes?
Alors, non, j'ai beaucoup d'élèves catholiques, au contraire. Parce que, curieusement, les orthodoxes, souvent, ils pensent qu'ils savent. Et puis, les catholiques ont plus besoin de découvrir. Donc, il y a un terrain vierge qui est très agréable pour quelqu'un qui essaye de transmettre. Mais par contre, on n'arrive pas forcément jusqu'au bout, alors que... Voilà, il faut les deux, je pense. On a besoin de tout le monde, même les protestants. Il y a les protestants approfondissent. Alors, c'est vrai qu'ils ne reconnaissent pas en général ni le 7e Concile œcuménique qui a confessé les icônes, ni parfois le 6e qui confessait la volonté du Christ, qui était en volonté humaine soumise à la volonté divine. La plupart des protestants ne confessent pas le 6e Concile œcuménique. Et par conséquent, ils ne peuvent pas comprendre l'icône. Mais parfois, ils en ont chez eux, même s'ils ne comprennent pas.
Oui. Et pourtant, le protestantisme, normalement, n'accepte pas, ou en tout cas ne reconnaît pas l'image. L'image n'est pas importante, puisque les temples sont dépouillés.
Mais dans un sens, ils ont un peu raison. Le Seigneur dit, après avoir guéri l'aveugle-né, qui est un des patrons d'Aix-en-Provence, il dit « Celui qui croit voir ne voit pas ». Voilà. Donc, il faut apprendre à ne pas voir qu'avec nos yeux. Mais je reconnais que si je n'avais pas Dieu, je ne pourrais pas faire d'icône, par contre.
Alors, Dieu, justement, on n'a pas parlé du Christ hésychaste.
Alors, on a une représentation qui est une copie d'une icône du XIVe siècle où le Christ a la main sur le cœur. Effectivement, la prière hésychaste est extrêmement répandue à cette époque des conciles palamites. Alors, ces conciles palamites, absolument pas connus en Occident, ils ne sont pas compris du tout. Pourquoi ? Parce que ça a été, pendant 10 ans, ça a été une bagarre. Et ça, le côté catholique, et j'apprécie d'ailleurs cette qualité, n'aime pas le désordre, n'aime pas les bagarres dans l'Église, n'aime pas les schismes, n'aime pas les disputes. Pourtant, cette dispute, elle avait une raison d'être, profonde, qui était de défendre le fait que la vie monastique pouvait se justifier à partir de rien, pratiquement, à partir de la prière du cœur, car Dieu est présent par sa volonté, dans ses énergies, et non pas dans son essence. Dieu n'est pas participable dans son essence, il est participable dans ses énergies. C'était le but de ces conciles palamites qui ont duré de 1341 à 1351 et qui encore après ont donné lieu à d'autres conciles, 56-57, 1300 et quelques, 56-57, et encore après, ça a été des débats sans fin que en Occident on peut appeler des débats byzantins, mais qui montrent une différente approche. Et pourquoi est-ce que c'est tellement difficile ? Bien, parce que le Seigneur, quand il a paru transfiguré à Simon, c'est-à-dire à Pierre, Jean et Jacques, il leur a demandé d'en parler à personne.
Oui.
Donc ça ne peut pas être une diffusion générale tout de suite. Ça ne peut être que personnel. Le Seigneur dit, saint Paul, pourquoi es-tu apparu à moi et pas à mes frères juifs ? Et puis saint Jude, Thaddée, demande au Seigneur, pourquoi es-tu apparu à nous les 12 et pas au monde ? Voilà, c'est pareil, donc l'icône, elle va manifester une théophanie, celle du Christ, et sa diffusion ne peut être que lente. Amen.
Bien, je voudrais maintenant aussi, pour conclure cette émission, que vous nous parliez d'une autre de vos réalisations. Tout de même, alors vous allez dire réalisation, c'est peut-être un grand mot, mais vous êtes quand même à l'initiative, en tout cas, et ainsi que votre mari, de l'église des Saints Archanges à Aix-en-Provence.
Alors, c'est une très bonne illustration de ce que je viens de dire, parce que Michel, mon mari, qui a eu la grâce d'être prêtre pendant 28 ans, je crois, elle a souhaité la réalisation de cette église. On a servi pendant 20 ans en Camargue. Avant, on a servi un peu à Marseille, à Toulon, voilà, différents endroits. Mais donc, à Aix-en-Provence, il y avait un besoin d'une église orthodoxe, il n'y en avait pas. Mais par contre, ce n'était pas du tout facile. Et il n'a pas vu cette église réalisée. Donc, il a été à l'origine, mais il n'a pas été jusqu'à la vision complète. Mais il est toujours présent, bien qu'étant décédé au bout de 3 ans et demi après le désir d'acquisition, le projet concrétisé d'acquisition de ce lieu. Voilà, comme quoi, ce qui est important, je crois, dans la tradition à la fois juive et orthodoxe, c'est que c'est une plénitude et qu'elle n'est jamais accomplie. C'est comme un cercle à 3/4 de cercle, un cercle ouvert. Et actuellement, on pourrait parler de cercle éclaté. Je vois toutes les familles qui sont éclatées dans le monde entier, de la diaspora. Parce que le Seigneur veut se manifester, mais en même temps, il le fait progressivement. Et si c'était des cercles fermés, ça n'intéresserait que le petit peuple d'Israël, qui sont déjà beaucoup, hein, mais ce n'est pas le cas.
Alors, pour revenir quand même à cette église, moi, je voudrais quand même que nos auditeurs sachent que s'ils vont la visiter, elle se visite, j'imagine, cette église.
C'est une église qui fonctionne depuis 8 ans. Il y a des liturgies les dimanches et puis des vêpres en semaine.
Parce qu'il y a une icône que vous avez réalisée, qui est donc l'icône sur les puissances évangéliques, si je me souviens bien, et qui figure là-bas, non ?
Des 12 apôtres,
ça
laquelle
doit, ça doit être celle-là. Moi,
il y a celle de l'Anastasis, les 12 apôtres, je crois que vous ne l'avez pas en photo.
Les puissances évangéliques, non.
Ah oui, les puissances angéliques, mais parce que l'Église est consacrée aux saints anges, puisque c'est l'archange Michel est le premier archange, premier dans l'humilité d'ailleurs. Et d'ailleurs, il faut signaler que mon mari, que j'aime beaucoup, mais il ne voulait pas que je fasse des icônes pour nous. Donc, toutes les icônes de cette église, elles datent d'après son décès.
D'accord.
Et avant, j'avais fait que des collages d'icônes existantes du monastère de Savronikita au Moatos du XVIIe siècle.
J'allais vous poser la question si tout à l'heure vous nous disiez qu'il fallait un commanditaire pour les icônes. Et je me disais, mais est-ce que de votre propre initiative, vous n'avez pas eu envie justement pour vous d'en faire, d'en réaliser? Donc là, après le décès de votre mari. Et d'où aussi cette jolie icône
l'icône de Sainte Marina,
de votre famille, je crois.
Pour ma petite fille, elle a été faite après aussi, oui.
Elle a été faite après. Alors, j'en profite aussi pour vous demander, parce que j'ai vu sur les différentes images qui sont donc les photos des
icônes. Au centre du livre, vous n'avez pas beaucoup d'illustrations, il y a 24 pages couleurs.
Voilà,
donc beaucoup ont 2 photos d'icônes par page pour pouvoir en mettre plus.
Et ça, c'est formidable. Ça, c'est
et puis, on a eu, on a eu l'autorisation au bout de 2 mois, grâce au monastère de Solan, dans le Gard, de 2 icônes extraordinaires du Mont Athos, même 3. 2 du Christ, du monastère d'Iviron, et 1 de la descente du Croix, du monastère de Vatopédie. On n'a pas le droit de les reproduire, on a eu une autorisation express.
Ah oui, très bien, très bien. Donc, on remercie... les moines. Et vous-même, j'en reviens à vous, j'ai l'impression que vous êtes assez sensible aux anges dans vos icônes, peut-être dans votre prière aussi.
On peut représenter les anges. Alors oui, il y a cette icône justement des saints archanges que j'avais faite au moment, enfin un an après le décès de mon mari, parce que tout le monde me disait d'abandonner le projet de faire cette église à Aix, construire une église, c'est très difficile en fait, parce que le diable s'y oppose en général. Et donc, il y a eu beaucoup d'obstacles. Mais j'ai fait cette icône et par conséquent, les anges ont aidé. Je ne peux pas m'expliquer autrement. Et c'est une icône des théophanies. Je m'étais inspirée d'une icône russe, mais après, j'ai fait une sorte de mosaïque avec différentes icônes des théophanies, des anges dans la première alliance, au moment du Seigneur, parce qu'il s'agit de Saint-Pierre qui est parti, qui a été libéré de prison par un ange. Et ensuite, dans les premiers siècles.
Mais en tout cas, donc cette icône-là, elle figure dans les photos, donc dans les images qui illustrent votre ouvrage.
Elle est
courage,
juste
je
avant.
Je crois qu'elle est juste avant. Elle est
voilà, c'est celle-là.
Attendez, je vais essayer de la montrer.
Donc en bas, il y a la traversée de la mer Rouge. En haut, vous avez la synoxe des anges, qui est le patronage de notre église, fêtée le 8 novembre. Et puis l'hospitalité d'Abraham, dont nous avons parlé. Il y a la ligature d'Isaac, l'ange arrête le bras d'Abraham qui allait sacrifier son fils. Il y a Jacob qui lutte avec l'ange. De l'Éternel. Hein, on ne sait pas exactement si c'est l'ange de son frère ou simplement un autre. Et l'apparition de l'archange Michel auprès des 3 jeunes gens dans la fournaise. Donc c'est du temps du prophète Daniel. Vous savez que alors que les bourreaux ont été brûlés, les 3 jeunes gens ont été entourés de rosée et ont survécu, ce qui a fait que Nabuchodonosor s'est converti au moins pendant un temps. Et puis, donc on a parlé de Saint-Pierre, la traversée de la mer Rouge, l'apparition à Saint-Macaire de son ange, et le miracle de Konae, pas très connu, mais qui est très important, c'est fêté le 6 septembre, l'archange Michel qui apparaît, et qui apparaît concrètement avec sa lance, il va percer la terre, il va détourner des eaux qui allaient engloutir l'église et le prêtre Archip, et sauver donc au IIe siècle cette église à Konae qui est en Asie mineure. Et ce miracle a été prédit par l'évangéliste et apôtre Jean.
Ce que je trouve aussi tout à fait intéressant, c'est que dans cette icône, il y a plusieurs périodes finalement. Je ne vous ai pas demandé notamment ce qui concerne
la chronologie, elle est très vaste.
Voilà, donc l'icône permet aussi...
Et puis, elle est au-delà du temps, puisque la synaxe des anges, c'est au début de la création.
C'est ça, donc c'est aussi un aspect important aussi de l'icône.
Et donc, Saint-Macaire, ça doit être le 4e siècle.
Donc, plusieurs représentations. Écoutez, vraiment, Elisabeth Herrière-Dubreuil, vous nous avez fait un vrai cours, en fait, un cours magistral, d'où le silence
de... Avec le soutien de mon assistante en chef.
En tout cas, voilà, je pense que nos auditeurs auront appris beaucoup de choses. Plongez-vous dans cet ouvrage d'Elisabeth Herrière-Dubreuil, parce que connaître donc les icônes chez Salvator, dans la collection Voix de l'orthodoxie. C'est un livre qui, encore une fois, est très agréable à lire, qui est plein, c'est une mine d'informations, une mine de connaissances, que ce soit, donc vous l'avez compris, donc bien sûr sur l'icône, mais sur les différentes techniques, sur l'orthodoxie, sur l'histoire et donc sur la religion chrétienne et orthodoxe. En cette période donc de carême, ça peut être un très bon livre d'ailleurs à lire, et on apprend en tout cas énormément sur l'art de l'icône. C'est une belle invitation qui nous est faite, Elisabeth, pour mieux finalement connaître et donc aimer, en tout cas apprécier cet art des visages et des signes qui a traversé les siècles et qui perpétue le message chrétien comme une fenêtre avant sur l'invisible. Voilà, chers auditeurs, donc Elisabeth, merci beaucoup. Immense merci, chers auditeurs, Michel, Benoît, la technique. Voilà, il est temps pour nous de rendre l'antenne. Je vous donne rendez-vous dans 4 semaines.
Merci, Pascal.
Merci.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Cultures et de l'Exploration, dirigé par Pascal Morère, assisté de Michel, diffusé en direct sur Radio Courtoisie. Mercredi 25 février 2026, de 14h à 15h30, est réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.